générale sur le combat du chrétien. Nous allons maintenant, dans ce deuxième exposé, nous concentrer sur un sujet particulier qui est le combat dans nos pensées. Et j'ai sous-titré « À l'assaut des forteresses ». Alors, nous allons voir successivement l'importance de la pensée, des pensées renouvelées, le combat dans les pensées, et enfin des pensées différentes. Tout d'abord, l'importance de la pensée. Il y a un texte des Proverbes qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est Proverbe 23, verset 7, « Comme il a pensé dans son âme, tel il est ». Peut-être tu pourrais éteindre au milieu, si on veut voir un peu mieux. Merci bien. Blaise Pascal a eu cette expression, « L'homme est un roseau pensant ». Et vous connaissez peut-être cet aphorisme, « Cultiver une pensée, elle deviendra une action. Cultiver une action, elle deviendra une habitude. Cultiver une habitude, elle deviendra un caractère. Cultiver un caractère, il deviendra une destinée. » Alors nos pensées, elles sont à nous. Là, je vous vois devant moi, je ne sais pas quelles sont vos pensées. Dieu le sait, lui, mais moi pas. C'est un domaine intime. Mais ce qui est très fort avec les pensées, c'est que tôt ou tard, ce domaine intime va se traduire à l'extérieur. Alors nos pensées sont un élément essentiel de notre relation avec Dieu. Quand un jour on est venu demander à Jésus quels étaient les deux commandements, le commandement le plus grand de la loi, il a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc la pensée est un domaine de base. S'il doit y avoir une différence, en tant que chrétiens nous sommes appelés à vivre une vie différente des autres, eh bien, elle doit commencer là. La pensée guide la vie. Mais ces pensées, elles ont besoin d'abord d'être renouvelées. Pourquoi ? Parce que l'homme a par nature des pensées corrompues. Genèse 6, juste avant le déluge, on a ce constat, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. L'imagination des pensées de son cœur. Donc, Éphésiens 2, au début, nous rappelle que nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et des pensées. L'opposition fondamentale qui était la nôtre n'était pas simplement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées. Et le chapitre 4 vient compléter. Les nations marchent dans la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et après ça se traduit, c'est les versets qui suivent, par de l'impudicité, des mauvaises actions. Et le Seigneur, en Matthieu 15, verset 19, dit bien « Du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les jalousies, etc. » Donc c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et je vous ai fait ce petit schéma résume un petit peu la façon de voir de l'Écriture. Parce que pour nous, quand on dit cœur, on pense sentiment. Le cœur, c'est les sentiments. Or, dans le texte biblique, le cœur, c'est pas tout à fait ça. Le cœur, c'est le tréfonds de l'être. C'est ce que je suis vraiment au fond de moi-même. Et les sentiments, c'est plutôt les entrailles. Les entrailles de miséricorde dont il est question dans certains textes. Donc quand on lit le cœur, l'imagination des pensées de son cœur, c'est le tréfonds de l'être, de l'homme est corrompu. Et donc, de ce tréfonds naît des pensées qui, elles aussi, sont corrompues et qui se traduisent extérieurement par des actions mauvaises. Même si ce distinguo entre cœur et pensée est parfois difficile à faire, néanmoins il semble bien que ce soit la façon dont l'Écriture, en particulier l'Ancien Testament, la pensée hébraïque, traduit les choses, le cœur, le tréfonds de l'être, qui produit des pensées qui se traduisent en actions. Il y a donc un besoin réel pour que ces pensées soient changées, et Dieu est venu apporter le remède. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui agit et qui, fondamentalement, Jésus-Christ a remporté la victoire. Et Dieu purifie notre cœur, la source des pensées. Et ce tréfonds de l'être est changé par l'action divine, par l'esprit. Déjà, c'était annoncé par le prophète Ézéchiel, chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et l'apôtre Paul le confirme, on a déjà cité l'épître aux Romains ce matin, et je me fais ce plaisir de lire ces versets 3 à 9, qui montrent combien le croyant a désormais cette pensée de l'esprit dans son cœur. « Ayant envoyé son propre fils en ressemblance de chair de péché pour le péché, Dieu a condamné le péché dans la chair afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit ont leur pensée aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit vit et paix. C'est pourquoi la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, position qu'on a évoquée tout à l'heure, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, d'ailleurs elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, or vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. » Dans ce passage triomphant de Romains 8, l'apôtre Paul met en contraste l'ancienne situation dans laquelle nous étions, dans la chair, avec une pensée de la chair, avec une pensée qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, et la nouvelle position dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans l'esprit, avec les pensées, la pensée de l'esprit en nous, et nous pouvons plaire à Dieu. Donc ça, c'est la position dans laquelle Jésus nous a mise par son œuvre à la croix, la nouvelle situation dans laquelle Dieu nous voit, et c'est comme cela que nous devons nous voir. Cela n'occulte pas le fait que l'opposition demeure, mais la position, le point de vue dans lequel nous sommes, c'est plus du côté, en partant du côté de la chair, mais c'est maintenant en nous mettant sur ce nouveau terrain dans lequel nous sommes introduits, ce terrain de l'esprit, et dans lequel nous pouvons avoir la pensée de l'esprit. Alors ça, c'est très beau, mais ça se rend en collision, bien entendu, assez rapidement avec notre expérience. Et on se dit, oui, effectivement, je suis en Christ, j'ai la pensée de Christ, j'ai la pensée de l'esprit, mais c'est pas quelque chose que je vis tout le temps. Et il y a à la fois ce changement de position qui est fondamental, qui est initial, complet, définitif, mais il y a en même temps aussi cette progression, ce renouvellement continu, progressif, et espérons-le, croissant dans chacune de nos vies. C'est comme si la source était changée dès le début, la dérivation est faite, mais au départ, le débit est un peu faible, et puis il y a encore pas mal de boue et de vieilles choses qui étaient envoyées dans l'ancien canal, qui sont encore présentes. Et alors, on a tous ces textes qui nous parlent de ce renouvellement qui est continu tout au cours de notre vie chrétienne. Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc ça, c'est un renouvellement que Dieu opère fondamentalement une fois pour toutes quand il change notre cœur. C'est le schéma que nous avons vu ici, ce cœur nouveau qu'il nous donne, mais qui se traduit progressivement par une intelligence qui comprend toujours mieux quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, qui apprend à discerner. Et c'est ce que les deux textes parallèles d'Éphésiens 4 et de Colossiens 3 aussi nous présentent. La vérité est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitrices trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et Colossiens 3, le texte parallèle, nous dit « L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé ». Donc nous sommes dans cet homme nouveau, mais il y a néanmoins ce besoin de renouvellement, ce besoin de croissance, ce besoin de progression que nous présente aussi l'Écriture et qui est toute la richesse et l'enjeu aussi de notre vie chrétienne. Donc le besoin initial, le remède que Dieu a apporté, et cette croissance dans laquelle nous sommes, qui nous permet d'entrer aujourd'hui dans la pensée de Dieu. L'apôtre Paul peut écrire en Corinthiens chapitre 2 verset 16 « Nous avons la pensée de Christ ». on a peut-être un peu de peine à s'exprimer de façon aussi catégorique, mais l'esprit qui est en nous nous donne cette pensée qui est une pensée qui est nourrie de la même pensée que Christ avait sur la terre. De sorte qu'aujourd'hui, la pensée de l'homme, dirigée par l'esprit, j'aurais dû mettre un E majuscule, par l'esprit de Dieu, n'est plus une pure spéculation intellectuelle, mais c'est une orientation intérieure morale conforme à la pensée de, à la volonté de Dieu, nourrie de l'écriture, comme le texte d'Hébreux 4, verset 12 nous dit, la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. On voit donc cette action pénétrante de la parole de Dieu, et c'est bien à ce crible-là que nous devons juger nos pensées. Donc, la nouvelle alliance infuse la pensée de Dieu au plus profond de notre être, puisqu'il met ses lois dans nos pensées, il les écrit dans nos cœurs. Alors, on est très heureux de ce renouvellement des pensées, de ce remède que Dieu a mené, de ces nouvelles pensées, même si on est bien conscient qu'il y a cette progression, qu'il y a un chemin, mais on se dit, voilà, c'est magnifique. Mais néanmoins, les choses n'en restent pas là et nous avons un combat à mener, un combat dans nos pensées. Alors là, je vais répéter des choses qu'Edouard nous a présentées tout à l'heure, mais... La répétition n'est-elle pas la base de la pédagogie, nous diraient les enseignants qui sont parmi nous. Et donc nous allons revoir les trois influences majeures qui agissent contre le chrétien, et en premier lieu dans ses pensées. Tout d'abord le diable. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, dit 2 Corinthiens 4, verset 4. Alors s'il a aveuglé les pensées des incrédules, on peut aussi dire qu'il n'a pas renoncé à aveugler nos pensées à nous qui sommes croyants. Alors, là, ça pose un sujet délicat, c'est est-ce que le diable lit dans nos pensées? Parce que, est-ce qu'il a une influence directe qui lui permet de lire nos pensées, de les influencer directement en nous-mêmes, si on peut dire? Je ne pense pas que le diable lise dans nos pensées. On peut dire qu'il n'y a pas forcément de texte absolu qui permette d'étayer cette vision des choses, mais plutôt un concours de différents textes qui nous permettent de considérer que le diable reste une créature de Dieu, donc ne partageant pas ni son omnipotence, ni son omniscience, ni son omniprésence. Et dans ce contexte-là, il ne semble pas que le diable ait la capacité de la part de Dieu de lire dans nos pensées. Néanmoins, il les influence, plusieurs textes, que ce soit celui de 2 Corinthiens 4 que j'ai cité, ou que ce soit ce que l'on lit, par exemple, je prends un autre exemple, c'est Matthieu 16, où Pierre suggère à Jésus de ne pas aller à la croix, après la belle confession qu'il a faite, eh bien, Jésus lui dit, « Va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais aux choses des hommes. » Jésus juge la pensée de Pierre, qui était influencée par Satan, et donc, même si Satan ne lit pas dans nos pensées, il les influence. Deuxième influence, c'est le monde. En Philippiens 3, versets 18 et 19, Paul déplore que beaucoup marchent, dont je vous ai dit souvent et dont je le dis aujourd'hui encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Des gens qui sont influencés, comme nous le sommes tous dans une mesure plus ou moins, mais qui sont influencés par le monde, c'est-à-dire par les pensées qui sont autour de nous. Ce monde, c'est sous-entendu pas ni le monde de la création ni le monde des personnes, mais plutôt le monde dans son sens moral, ce système organisé qui vient en opposition à Dieu. Et puis la troisième influence, elle n'est pas extérieure, spirituelle, elle n'est pas extérieure dans le contexte dans lequel nous vivons, mais elle est intérieure, c'est la chair. La pensée de la chair est inimitié, ennemi contre Dieu. Donc l'homme a un relais intérieur efficace à ses influences extérieures, sa source du mal, la chair, que l'on peut définir en ce sens comme l'ensemble des structures profondes de l'être contaminées par le péché. Alors c'est bien, c'est important de voir que si on peut distinguer ces trois influences, c'est intéressant et c'est important de le faire. Néanmoins, dans la pratique, ces trois influences se combinent, et se combinent très fortement. Parce que, par exemple, le diable est appelé le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère aujourd'hui dans les fils de la désobéissance. Donc on voit bien que c'est le diable qui, derrière aussi, stimule, influence les pensées du monde. Et que notre chair répond aussi à ces stimuli pour développer des actions, des pensées, des sentiments qui sont contraires à la pensée de Dieu. Donc vous voyez, je pense que s'il y a ces trois influences, bien souvent elles se combinent et il n'est pas toujours évident de savoir qui c'est qui est vraiment à l'origine. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que si l'Écriture est très claire, par exemple, sur le rôle de Satan, elle ne l'exagère pas et elle ne dédouane pas le chrétien de sa responsabilité. Ou pour le dire différemment, je ne peux pas dire « Ah ben cette pensée-là, je l'ai, mais c'est pas moi, c'est le diable, c'est un esprit qui me l'a soufflé. » Non. La parole nous responsabilise, quand bien même elle reconnaît que nous sommes soumis à des influences externes inévitables. Et donc, il y a une lutte contre ses ennemis. Je vous ai mis ici une reconstitution que certains ont faite de la forteresse de Masada. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de Masada ? Donc, les Juifs se sont révoltés en l'an 66 après Jésus-Christ contre les Romains. Et au cours de cette révolte, il y a un groupe de zélotes qui s'est emparé de cette forteresse de Masada qu'Hérode le Grand avait construite quelques dizaines d'années auparavant dans le désert de Judée, tout près de la mer Morte. Une forteresse qui était assez extraordinaire puisque elle avait sur un côté une falaise de 450 mètres de haut, de l'autre côté une falaise de plus de 100 mètres de haut, et c'était considéré comme une forteresse inexpugnable. Les Romains y avaient établi une garnison, les Zélotes s'en sont emparés par ruse, et ensuite c'est devenu, après la chute de Jérusalem en l'an 70, le dernier bastion de la résistance des Juifs vis-à-vis des Romains. Un certain nombre de familles avaient fui Jérusalem et étaient venues se réfugier dans la forteresse de Masada, croyant être totalement en sécurité là, parce que c'était réputé comme un endroit imprenable. Et c'est vrai que, fort de vivres, de citernes qui retenaient l'eau de pluie, etc., pendant un bon nombre de mois, les Juifs ont résisté à Masada contre les Romains de façon victorieuse. Mais les Romains se sont finalement emparés de la forteresse de Masada. Ils ont fait une énorme... Ils ont ramassé de la terre et des rochers pour monter à l'assaut de la forteresse de Masada. Ils ont amené des machines de guerre. Alors, vous savez, ces machines qui lançaient des gros blocs de pierre pour fracasser les fortifications, et des béliers qui étaient là aussi pour enfoncer les murs. Et finalement, après 7 ou 8 mois de siège, Masada est tombée et la forteresse a été vaincue. Et je trouve que c'est une image parlante des forteresses de nos pensées. Et un texte sur lequel nous allons nous arrêter un instant, c'est ce texte de 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 6, 4 à 6 en fait, que je vais vous lire et puis que nous allons essayer de regarder un petit peu plus en détail. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance aura été rendue complète. Nos fausses pensées, entretenues, câlinées, oserais-je dire, deviennent comme des forteresses à abattre dans notre esprit. Et l'apôtre Paul décrit très bien 3 étapes du combat dans ce texte. Au verset 4, vous avez ce siège. Il faut faire le siège et détruire les forteresses. Puis ensuite, il y a la capture. une fois qu'on a conquis la forteresse, eh bien, ceux qui étaient assiégés essayent de s'enfuir, bien entendu, puisque le salut n'est plus dans la forteresse. Et là, les soldats vont aller capturer ceux qui s'enfuient. Et puis donc, ceux qui s'enfuient sont obligés de se rendre, et la reddition est totale, sauf que certains auront toujours tendance à se soulever après. Donc il faut soumettre ceux qui ont été assiégés, ceux qui ont été capturés, et finalement il faut les soumettre. Et l'apôtre Paul, dans ses trois versets, prend bien ces trois éléments du combat, du siège que nous avons à faire contre nos pensées, contre ces forteresses. Et ces forteresses, eh bien, elles sont établies dans notre esprit. Et c'est des combats que nous avons à mener. Alors, tout à l'heure, Marco, dans ta prière, tu évoquais les différentes générations, et je pense que ceux qui parmi nous sont les plus âgés, finalement, c'est peut-être vous, et je commence à m'inscrire dedans, la cinquantaine approchant rapidement, qui avez peut-être les plus grandes forteresses, parce que, fur et à mesure des années, les choses se sont accumulées, et l'esprit est moins souple à 50 ans qu'il était à 20 ans, et sans doute à 80 ans encore moins. Donc il y a ces forteresses, toutes ces pensées qui se sont accumulées année après année. Elles existent aussi pour les jeunes, hein, attention, je ne vais pas vous dédouaner pour autant. Mais voilà, et ces forteresses qui ont grandi, qui ont grandi, qui ont grandi, qui ont grandi, et qui forment finalement des murs impressionnants, et puis ça semble inexpugnable. Mais moi j'ai toujours pensé comme ça. Mais ça, cette pensée-là, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup, comme on a lu au départ, ben, on cultive la pensée, finalement, elle fait partie de moi, et ultimement, elle désigne ma destinée. Donc il y a ces forteresses dans nos esprits, ces choses qui sont opposées à la pensée de Dieu et que nous avons à détruire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos armes sont puissantes selon Dieu. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que ces forteresses, on peut les détruire. Et ce qui est très frappant, c'est que dans l'histoire de l'Antiquité, il n'y a pas d'exemple de siège qui n'ait pas été remporté. Ceux qui étaient assiégés, forcément, un moment ou l'autre, ils étaient perdants, soit parce qu'ils manquaient de vivres, soit parce qu'ils manquaient d'eau, soit parce qu'ils avaient plus de force, etc. Mais un siège était vainqueur. Et je pense que c'est ce qu'il faut se retenir, parce qu'il y avait des armes de siège, les catapultes, les béliers, tout cela. Alors, il y avait peut-être beaucoup de pertes. À Massada, il y avait 8000 Romains pour 1000 Juifs à l'intérieur. Vous voyez la disproportion des forces. Mais nous, c'est pareil. Celui qui est avec nous est beaucoup plus puissant que celui qui est contre nous. Et donc, la victoire, elle est assurée. Donc, les armes de notre guerre, elles sont puissantes par Dieu. Elles sont puissantes par Dieu. Et de sorte qu'on n'a pas le droit de dire, ben, cette pensée-là, je l'ai toujours, c'est ma façon de penser, je peux pas m'empêcher de... Ça restera toujours comme ça. Non, non. Grâce à Dieu, les armes sont puissantes par Dieu pour détruire les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que ces pensées, elles sont en opposition, en collision avec la connaissance de Dieu. Et ce sont souvent des raisonnements. Vous connaissez peut-être ce texte de l'Ecclésiaste, « Dieu a fait l'homme simple, mais ils ont cherché beaucoup de raisonnements ». Et combien souvent nous nous perdons dans des raisonnements sans fin, parce que ça nous fait plaisir de raisonner, parce que on a de la peine à lâcher ses présupposés, parce que c'est quelque part aussi une remise en cause personnelle qu'on est obligé de faire, mais qu'il est nécessaire, parce qu'on va amener, tout cela captif à l'obéissance de Christ. Et donc, l'arme par excellence, c'est la même que celle que nous verrons cet après-midi en regardant Éphésiens 6, c'est la parole de Dieu, puisque c'est elle qui nous donne cette connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu qui est à la fois connaissance sur Dieu et connaissance aussi personnelle de Dieu, et qui élève cette hauteur. Pourquoi cette hauteur? Parce que ces forteresses, c'est ma pensée que je mets en collision contre la pensée de Dieu, et si c'est devenu une forteresse, c'est que j'ai pas voulu me soumettre. Donc c'est une hauteur, c'est l'orgueil qui fait que Ève, finalement, elle préfère sa propre pensée, que l'arbre, ben, il était peut-être pas mal à manger, puis il était beau à voir, etc., à ce que Dieu lui avait dit. Donc ce siège-là, nous avons à le mener, mais nous pouvons le mener victorieusement, c'est bien la force de ce texte-là. Et puis ensuite, amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est vrai qu'une fois qu'on aura compris que les sous-jacents qui nous faisaient avoir ces pensées qui étaient opposées à Dieu, eh bien, ces sous-jacents sont mauvais, sont opposés à la pensée de Dieu. Néanmoins, eh ben, il y a toujours un captif qui s'est échappé, après lequel il faut qu'on court. Parce que, bien souvent, c'est pas évident. Quand on a eu cette façon de penser pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans, 50 ans, eh bien, pour revenir dessus, bien souvent, il va y avoir des fugitifs qu'il faudra capturer et amener captive à l'obéissance de Christ. Cette pensée, je dis oui, effectivement, c'est cette obéissance que Jésus-Christ a montrée dans sa vie quand il dit « Moi, je ne dis que ce que le Père m'a dit de dire, je pense comme le Père m'a dit de penser, etc. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc c'est cette obéissance du Christ qui n'a pas regardé comme un objet à ravir de mettre sa pensée, sa volonté au-dessus de celle de Dieu. C'est cela à quoi nous sommes appelés. Et après, s'il y a une désobéissance, eh bien, il faut qu'on soit nous-mêmes, je m'éloigne un peu du contexte direct de 2 Corinthiens 10, j'en suis conscient, mais il faut que nous-mêmes, on soit appelés à soumettre, à tirer vengeance de toute désobéissance. Se dire, ben oui, ça, je rejette cette pensée-là parce que, effectivement, c'était un point que j'avais réglé. Et, sans me le détailler, je rappelle ce texte d'Éphésiens 6, versets 12 à 18, Dieu a donné aux croyants des armes pour combattre, et le combat spirituel, pour ma part j'en suis persuadé, c'est pour cela que j'avais proposé aux organisateurs de cette journée ce sujet-là, le combat spirituel, c'est d'abord et avant tout dans les pensées qu'il se gagne. Et c'est pour cela que je relève juste que quelques termes qui sont relatifs dans ce texte d'Éphésiens 6 aux pensées, la puissance elle est spirituelle, c'est pas une puissance physique, c'est une puissance spirituelle, on est saint de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, on a besoin du casque du salut qui va protéger nos pensées, on se saisit de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui va aussi nous donner de bonnes pensées. Mais je ne développe pas davantage l'essence de là pour cet après-midi. Et ces pensées qui désormais sont soumises à Dieu deviennent des armes. J'aime beaucoup la force de 1 Pierre 4 verset 1. Armez-vous de la même pensée. On voit donc qu'il y a une pensée qui peut devenir pour nous une arme. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de ne plus vivre le reste de sa vie terrestre pour des convoitises d'hommes. Donc c'est aussi une autre façon de voir le combat que Romains 6 ou Galates 5 ou Colossiens 3 nous présentent. Nous avons à nous armer de cette pensée. Il faudrait relire ce texte un petit peu compliqué au demeurant dans son contexte pour le développer, mais juste je vous invite à le regarder et de se dire, voilà, je prends le fait que Jésus-Christ a accompli l'œuvre, qu'il est mort, lui le juste pour nous les injustes, et pour nous amener à Dieu, et bien ça, je peux m'armer de cette pensée et remporter la victoire. Et Dieu peut nous donner de vraies pensées par un intérêt personnel soutenu pour ses pensées à lui. Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu, combien en est grande la somme. Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Si je me réveille, je suis encore avec toi. Dit le psaume 139. Dans cette quatrième partie, nous allons rentrer du général au particulier et j'aimerais essayer d'appliquer ce que nous venons de voir, donc cette destruction des forteresses, en essayant d'identifier certaines pensées qui sont fausses. Mais tout d'abord, peut-être distinguer de façon très très frustre et pas du tout psychologue aurait beaucoup à redire sans doute là-dessus, mais différents niveaux de pensée. Il y a des pensées inconscientes, nous n'en sommes pas directement responsables, même s'il faut savoir que nos pensées conscientes les influencent souvent. Ce texte d'Ecclésiaste 5 verset 3, le songe vient de beaucoup d'occupations et chacun de nous peut dans nos rêves, dire que c'est effectivement une parole tout à fait sage. Puis il y a les pensées conscientes. Alors quelle attitude dois-je avoir si de mauvaises pensées viennent me troubler? Vous connaissez sans doute cette expression, je ne peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ma tête, mais je peux l'empêcher d'y faire son nid. Et cela nous encourage à ne pas avoir de culpabilisation maladive si on a des pensées qui nous viennent, pensées impures, des pensées détestation de quelqu'un, voilà. Ces pensées-là, elles peuvent venir et puis elles peuvent partir. nous sommes amenés à confesser toute pensée consciente cultivée. On connaît tous, je pense, les uns et les autres, des chrétiens qui ont une conscience extrêmement sensible, presque on pourrait dire maladive, et qui se font un sang d'encre parce que un jour elles ont dit celui-là je pilerai bien. Eh ben oui, effectivement, mais je passe à autre chose. Ce que nous avons à confesser, me semble-t-il, c'est toute pensée consciente cultivée que le Saint-Esprit nous montre comme contraire à la pensée de Dieu. Par contre, il y a ces pensées cultivées, l'occupation de nos esprits, à quoi on pense. Et Dieu nous demande de renoncer à cultiver des pensées contraires à sa pensée et de décider, il y a aussi un acte de volonté, de cultiver des pensées selon lui. Et c'est pour cela qu'il nous faut identifier les mauvais schémas de pensée pour y substituer les bons. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir un autre référentiel, ce que j'ai appelé une axiomatique renouvelée. Une axiomatique, c'est l'ensemble des vérités indémontrables en science, que nous reconnaissons comme vraies. Ce sont des postulats qui sont le fondement de toute théorie et desquels on tire des conséquences logiques. On pose par exemple en mathématiques un certain nombre d'axiomes, et puis par des théorèmes, on a déduit beaucoup de choses. Donc ce qu'il faut identifier, c'est effectivement ces principes de base, puisque c'est à partir de cela qu'on va développer des tas de pensées. Donc il faut revenir au soubassement. Il faut prendre le bélier pour aller saper les fondations de la forteresse. Et cela, c'est ce que l'apôtre Paul appelle dans deux de ses épîtres, l'épître aux Colossiens et l'épître aux Galates, les principes du monde. On pourrait traduire aussi les axiomes du monde. C'est ce qui est à la base de la pensée du monde, les présupposés philosophiques du monde. Et Paul dit, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les axiomes du monde et non selon Christ. En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement, vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de tout pouvoir et de toute autorité. Alors ça c'est vrai pour le monde, mais ce qui est intéressant c'est que la même expression est utilisée dans l'épître aux Galates, dans un contexte différent, qui s'applique plus dans un contexte religieux. Paul dit « Comment pouvez-vous retourner aux faibles et misérables éléments ou axiomes auxquels vous voulez de nouveau encore être asservi ? Vous observez des jours, des mois, des saisons, des années, je crains peut-être d'avoir travaillé pour vous en vain. » Donc on voit qu'il y a des présupposés qui sont dans le monde autour de nous, mais aussi parfois nous avons des présupposés religieux, si je puis dire, qui sont tout aussi critiquables. La base de nos pensées renouvelées, c'est la connaissance d'une personne, Jésus-Christ, à travers un référentiel sur la Bible. Il y a ce beau texte de Proverbe 22, versets 20 à 21, qui introduit cette partie nouvelle du livre des Proverbes, où il est dit « Ne t'ai-je pas écrit des choses excellentes en conseil et en connaissance pour te faire connaître la surnorme des paroles de vérité, afin que tu répondes des paroles de vérité à ceux qui t'envoient. » Donc on voit bien que ce que nous avons à faire, c'est échanger l'axiomatique du monde pour l'axiomatique biblique qui est fondée d'abord et avant tout sur la parole de Dieu. D'où l'importance que nous avons déjà soulignée, Edouard en a parlé, j'en ai déjà parlé, de la parole de Dieu dans ce combat. C'est l'arme offensive, on verra cet après-midi, mais c'est vraiment d'abord et avant tout la surnorme qui va nous permettre d'identifier quels sont les principes de Dieu et qui s'oppose aux principes du monde. Donc là, nous allons voir une suite d'exemples. Nous allons voir une suite d'exemples dans différents domaines. Tout d'abord, dans le domaine philosophique. Pourquoi je commence par celui-là ? C'est parce que la philosophie, c'est la base des idées sous-jacentes de ce monde. Et la philosophie, elle cherche à trouver Dieu. Elle cherche en tâtonnant. Acte 17-27, Paul dit sur l'Aréopage d'Athènes, « Il cherche Dieu en s'efforçant si possible de le toucher comme un tâton et de le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » J'ai pas fait beaucoup d'études de philosophie, mais chaque fois que j'ai lu des textes de philosophie, j'ai été frappé de voir combien il y a ce tâtonnement. Parfois on lit et on se dit « Ah ben oui, mais ça c'est tout à fait juste. » D'ailleurs, il y a un texte biblique qui dit à peu près la même chose. Et puis, quelques pages après, ça dérive. On voit ce tâtonnement de l'homme, tandis que nous avons une recherche fondée. C'est ça. Nous ne sommes pas livrés à une lumière plus ou moins floue, plus ou moins obscurcie. Platon, Aristote, tout ce, pour prendre les grands penseurs à la base de notre société judéo-chrétienne, eh bien, et gréco-romaine, ils ont bien eu des intuitions qui étaient parfois presque fulgurantes, on pourrait dire. Mais à côté de cela, beaucoup de mélanges et un tâtonnement qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'on aboutit. Alors il y a un autre penseur qui vient après, un autre penseur qui vient après, un autre penseur qui vient après, et on reste à tâtonner. Tandis que nous, notre recherche, elle va nous dire que ce qui est premier, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. On peut dire que toute philosophie humaine est à la base un humanisme. On cherche une pensée indépendamment de Dieu, à élaborer un système de pensée cohérent qui permette aussi de se décider pour l'action, mais si c'est indépendant de Dieu, eh bien finalement on en revient à la vieille tentation du jardin, vous serez comme Dieu. On veut établir sa propre norme du bien et du mal. Ou la supprimer, peu importe, mais ça revient au même. Parce qu'on oublie que, au commencement, Dieu. Et alors on va utiliser la raison comme une fin. Et on va tomber dans le rationalisme, au lieu de faire comme la Bible nous y invite, d'utiliser notre raison comme un outil. La rationalité n'est pas le rationalisme. Le chrétien est un être rationnel, et il n'est pas un être rationaliste. D'autres, au contraire, vont tomber dans un relativisme qui conçoit toute chose comme subjectif, alors que nous pouvons dire avec une humble assurance qu'effectivement nous connaissons la vérité objective. Et on connaît le nouveau, ce que j'appelle le totalitarisme du relativisme, où finalement tout est relatif, on ne peut pas jamais trancher, etc. Et puis, finalement, les philosophies humaines amènent, qu'elles le veuillent ou pas, à une déification de l'homme, alors que nous avons à prendre en compte la finitude humaine. Je suis très frappé que depuis quelques mois, il y a une résurgence très forte de cette pensée-là à travers les grandes sociétés de la Silicon Valley. Il suffit d'écouter certains discours de Larry Page ou de Zuckerberg ou de ces grands noms de la nouvelle économie ou des nouvelles technologies, pour voir combien ils ont finalement une foi, pas dire autrement, un espoir qu'avec toute cette nouvelle technologie, toute la science de la big data, etc., on va arriver à étendre la vie de l'homme de façon exceptionnelle, etc. C'est la nouvelle pensée où on va déifier l'homme. Peut-être c'est une préparation de la fin, c'est possible. Mais voyez, tandis que nous reconnaissons que effectivement l'homme est fini, et qu'il doit se soumettre à son créateur, qu'il n'arrivera pas, quels que soient ses efforts, quelle que soit son intelligence, quelles que soient ses découvertes, à arriver à trouver le bonheur de l'homme, etc. C'est pas le big data qui fera la paix sur la terre, la santé des hommes et la paix, que ce soit au niveau individuel, interpersonnel, ou que ce soit au niveau des nations. Ça ne marchera pas. D'où, dans notre vision de la société aussi, qui dérive de ces présupposés philosophiques, une vision que nous devons avoir qui est différente. Par exemple, la question aujourd'hui, est-ce qu'on a des droits individuels ou des devoirs collectifs, ou c'est l'inverse? Pendant longtemps, on a vécu dans une société de devoirs. Aujourd'hui, on vit dans une société de droits. J'ai bien le droit de. La société est responsable de. Alors que le chrétien connaît ses devoirs et n'insiste pas sur ses droits. Vous voyez combien on change de paradigme, hein. Faut qu'on lutte contre cela, parce que nos enfants, ils savent très bien nous dire « Ah, j'ai bien le droit d'eux ». Non, c'est une pensée du monde. Autre point aussi, responsabilité sociale et déresponsabilisation individuelle, c'est un peu corollaire. C'est la faute à la société, c'est la faute à l'école, c'est la faute à mes parents, je me trouve devant la barre du tribunal, c'est la faute à qui vous voulez, mais pas moi. Alors que, en tant que chrétien, nous sommes appelés à assumer nos responsabilités. Assumer nos responsabilités. Qu'il est grand de pouvoir dire oui, je me suis trompé. Et le dire devant sa femme, le dire devant ses enfants, le dire devant ses frères, le dire devant les gens autour de nous, et d'abord et avant tout devant Dieu. D'autres exemples dans le domaine des arts et de la culture. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre, et ça, des penseurs comme Francis Schaeffer l'avaient, il y a quelques décennies, remarquablement mis en lumière, c'est que l'art est le reflet des idées. Peut-être vous n'êtes pas fan de philosophie, mais que vous le vouliez ou non, vous êtes soumis aux idées du moment par l'intermédiaire de l'art. L'art au sens très large, hein. Je parle de jusqu'au 9e art, on est Angoulême. Donc c'est l'art sous ses différentes formes, et l'art est le reflet des idées. Et là, on est soumis à un matraquage extraordinaire. L'art, c'est le moyen de diffuser la philosophie du moment via des médias. Et, par exemple, l'art moderne correspond en bonne partie à la philosophie existentialiste. Il a perdu toute beauté et devient incommunicable. Il y a des tableaux, si vous n'avez pas la notice en dessous qui vous explique pourquoi l'artiste a représenté ce truc incompréhensible, vous ne rentrez pas devant. Vous regardez un tableau de Poussin ou de Watteau, même si vous ne comprenez pas très bien la construction en triangle et les lignes de fuite du tableau, néanmoins vous trouvez que c'est joli. Vous passez devant certains tableaux de Picasso, s'il n'y a pas l'explication, vous ne pigez rien. Voilà. Et donc du coup, pour nous, en tant que chrétiens, on a besoin de s'intéresser au système de pensée de l'artiste. Et je suis frappé de voir que, c'est pour ça que j'ai mis Tété. Vous savez Tété, alors ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont décrypter, c'est que il y a quelques années, j'étais abonné à Télérama. Bah, Télérama, je me disais, c'est important d'être au courant de la culture, et Télérama, c'était censé avoir un arrière-plan chrétien. Et ils notaient des films Tété. Et j'étais souvent scandalisé de voir que Tété, parce que c'était du Quentin Tarantino, parce que c'était cela, il y avait beau avoir toutes les horreurs derrière, c'était considéré comme de l'art, donc intouchable, donc c'était loué, exalté. Et on y mettait le petit garçon là qui fait un grand sourire. Et aujourd'hui, la culture se déconnecte de toute morale. Le bien et le mal se déterminent au niveau individuel. Et du coup, le fait culturel n'est plus une norme extérieure, la surnorme des paroles de vérité, c'est ce qui est reçu aujourd'hui communément par la majorité, un consensus temporaire. Ton consensus qui change d'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus. Et du coup, des comportements marginaux ou déviants sont établis en normes et glorifiés. Alors, on pourrait dire, oui, mais moi je suis pas du monde, tout ça c'est le foin de ces histoires-là. Et je ne m'en mêle pas. Et dans une mesure, ça peut être une posture sage. Mais néanmoins, nous n'avons pas à nous retirer sur notre tour d'ivoire. Nous avons besoin aussi d'être un peu en prise avec la culture dans laquelle nous sommes. C'est pour cela que, pour ma part, j'aime bien lire les critiques de films. Je me dis, quel temps je m'épargne de passer 1h30 ou 2h à aller voir de telles horreurs. Ça me prend 3 minutes pour lire la critique et me dire, mais vraiment, ce film-là, c'est bien triste. Mais au moins, on est un petit peu au courant de ce qui est l'esprit du monde dans lequel on vit, pour justement y être attentif, que ce soit pour nous-mêmes, pour ceux auxquels on présente l'Évangile, et aussi, en particulier, pour nos enfants, qui, eux, y sont soumis directement. Donc, vous voyez, je pense que c'est, même si d'un côté, il est inutile de se salir, et c'est pas la peine de tout voir et de tout connaître, néanmoins, être un minimum au courant me semble être une posture qui est nécessaire. Alors, on pourrait dire, bon, ok, laissons les arts et les sciences, ça, c'est un domaine, mais il y a les sciences. Là, c'est la création de Dieu, donc tout va bien. Ouais, sauf que le présupposé en science, il est très souvent humaniste. Et on se place souvent en science dans un principe de causalité en système clos, avec une vision déterministe, et surtout, ce qui m'énerve tellement souvent, une confusion entre les faits et l'explication des faits. En particulier dans certains journaux de vulgarisation. Les publications scientifiques de très haut niveau permettent effectivement peut-être davantage de trier les faits et les théories sous-jacentes qu'on déduit des faits, mais tout le monde, moi d'ailleurs le premier, on n'est pas abonné à Nature. Par contre, dans Science et Vie, vous avez parfois des mélanges éhontés entre des théories, des faits et des théories. Et donc, il y a une confusion entre la science, la physique, le comment, et puis la métaphysique, pourquoi ? Et il faut bien voir que, parce que souvent, des gens qui sont à la base de cela s'opposent à la pensée chrétienne. Alors que le présupposé chrétien en science à retenir, c'est le Dieu créateur. Dieu est créateur. Et donc les lois sont valables, mais dans un système ouvert, où il y a possibilité du miracle, où Dieu peut intervenir de façon directe s'il le souhaite. C'est pas sa façon habituelle de faire, mais il peut le faire, et donc je ne le méconnais pas. Et je retiens la cohérence des deux révélations, création et écriture, chacune dans son domaine. La Bible n'est pas un livre de science, mais elle ne s'oppose pas à la science, si du moins elle est bien lue. Alors dans le domaine politique, il y aurait aussi beaucoup de fausses idées à soulever. C'est toujours un domaine délicat, hein, donc je ne vais pas m'y avancer très loin. Juste deux points peut-être sur l'écologie. L'écologie, c'est génial, mais quand on lit certaines publications, le sauver la planète dérive assez facilement dans un panthéisme déguisé. Alors que le chrétien est appelé effectivement à garder le jardin, à le cultiver, mais aussi à dominer la création, et c'est pas l'inverse. C'est pas la mère terre qui a nous imposé ces idées. Il y a quelques années, il y a eu un colloque très intéressant à Logne sur ce sujet-là, où il y avait quelqu'un, c'était un responsable au niveau européen, qui était responsable des industries pétrolières, donc qui était chargé de les contrôler, de les réglementer, et qui est à la fois aussi président de l'église baptiste de Belgique, qui avait une pensée très pointue et très juste sur le sujet. Il a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet. Et en économie, ben oui, aujourd'hui, on est dans le tout économique, et pourtant la Bible nous dit non, les hommes sont plus importants que les choses. Les hommes sont plus importants que les choses. Et ça, nous avons aussi à le reconnaître. Voilà, puis il y aurait d'autres éléments. Sur la religion, alors là aussi, il y a beaucoup de pensées actuelles que nous avons à combattre, sur l'égalité des croyances. Finalement, tout ce qu'on croit se vaut. L'important, c'est d'être sincère. D'autres disent, bon, non, il n'y a rien qui vaut, toutes les religions sont incohérentes, ce qu'il faut, c'est, voilà, l'homme, ce qu'il pense, le rationalisme. Il y a aussi cette tendance au syncrétisme. Bon, il y a du bon dans toutes les religions, et puis on fait sa petite soupe personnelle avec un peu de zen, un peu d'islam, un peu de christianisme, un petit peu de pensée positive, etc. Et puis voilà, on fait sa soupe. Et surtout, on est dans un monde où la tolérance est la vertu cardinale qui est intolérante uniquement envers ceux qui affirment détenir la vérité. Et je suis frappé de voir que ça, même vis-à-vis de certains jeunes, quand on discute dans des groupes de jeunes, c'est une pensée qui s'est finalement drôlement infusée. Ah ouais, mais tu n'as pas le droit de juger. Hein ? Vous n'entendez pas ça ? Tu n'as pas le droit de juger, parce qu'ils pensent comme ça. Parce que, oui, mais Dieu finalement, au bout du compte, il donnera, si quelqu'un musulman est sincère, etc., est-ce qu'il ne sera pas sauvé ? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Nous avons cette humble assurance chrétienne et nous avons à continuer à affirmer paisiblement et humblement que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et que c'est sa parole qui n'est pas une vérité, qui ne contient pas la vérité, mais qui est la vérité. Bon, ça c'est la religion au sens général. Mais les fausses pensées aussi, elles se glissent ô combien facilement sur notre façon de vivre la religion, sur notre façon de vivre notre foi chrétienne, qui est bien plus qu'une religion. Par exemple, elle se glisse dans le traditionnalisme. Oh, mais on a toujours fait comme ça dans nos églises, on va pas changer. Voilà, on a érigé une forteresse. Parce qu'on a toujours fait comme ça, on va pas vouloir changer. Alors c'est sûr que le chrétien, il va écouter les leçons du passé, mais sans tomber dans le traditionnalisme, qui peut devenir une forteresse. Le mysticisme aussi. Ah, mais le Seigneur m'a parlé, j'ai entendu sa voix qui me disait ça, etc. Et on refuse de passer ce qu'on a reçu, expérimenté peut-être, au crible de la parole de Dieu, alors que le chrétien, il va avoir une recherche d'une vraie vie de piété dans la proximité avec Dieu, mais non pas dans un mysticisme séparé de la révélation objective qu'il nous a faite de lui-même. Puis le fanatisme, on va être absolu. Ça, je pense que c'est peut-être aussi une des convoitises de la jeunesse, cet absolu parfois où on est très dur dans un sens, alors que le chrétien il va faire preuve de cette conviction humblement et solidement ancrée dans la parole de Dieu, mais il va aussi accepter d'évoluer et de revoir ses opinions quand elles ne sont pas conformes ou quand on lui montre qu'effectivement il faut qu'il revoie sa position là-dessus et on ne va pas tomber dans le fanatisme. Donc vous voyez, ça c'est aussi notre forteresse. Et puis aussi quant à soi-même, alors là je vais faire quant à soi-même, quant aux autres et quant à Dieu, les pensées sur nous-mêmes. Alors, il faut être honnête, hein. Nos pensées elles tournent très 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 souvent sur nous-mêmes. Vous connaissez le test de la photo, Vous avez une photo, par exemple, on a pris un groupe à l'occasion d'un mariage. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder la photo, vous n'allez pas regarder les mariés, vous allez regarder quelle tête je faisais sur cette photo. Pourquoi? Parce que parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui me donne des mois. C'est ce que chantait autrefois une chanteuse du milieu du XXe siècle, mais c'était tellement vrai. Et Romains 12, verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il faut, mais une saine façon de penser selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, ni surestimation, la tendance numéro 1 quand même, soyons clairs, c'est pour ça qu'il dit une haute pensée de lui-même, ni sous-estimation. Donc, essayez d'être un peu lucide par rapport à nous-mêmes. Et pour cela, le vis-à-vis des autres, en particulier pour ceux qui sont en couple, le vis-à-vis du conjoint, est une aide inappréciable pour avoir une saine pensée pour soi. Certains auront tendance à se dévaloriser, d'autres à se survaloriser. Eh bien, j'ai besoin de mes frères et sœurs pour avoir ce vis-à-vis. Et surtout, encourageons-nous à ne pas trop laisser nos pensées tourner sur nous-mêmes. Ça peut être une tentation tellement grande, même dans nos relations interpersonnelles. Ah ben oui, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Soit... Arrêtons de penser à ce qu'ils pensent de moi, parce que ça va occuper trop nos pensées. Et puis, il y a des influences actuelles qui sont opposées à cette juste appréciation. Il faut prendre du temps pour soi, il faut se réaliser soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de divorces qui partent de cette forteresse-là. La prison des pensées sur soi. J'aime beaucoup ce texte de Proverbe 29, verset 25. Je vais le lire pour ne pas le citer, mais la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. La crainte des hommes tend un piège. Le piège dans lequel on tombe de qu'est-ce que les autres pensent sur moi. Et puis, quant à notre état d'esprit, certains vont cultiver les pensées, par exemple, de scepticisme. Et ça, il faut bien voir que la parole nous dit qu'on en est responsable. Il y a certains qui disent, ah ben, il y a l'esprit de scepticisme, il faut chasser cet esprit de scepticisme. C'est comme s'il y avait un petit démon étiqueté scepticisme qui venait m'influencer, et puis il faut que je l'ordonne au nom de Jésus-Christ de partir et que je ne serai plus sceptique du tout. Je ne suis pas certain que ça se passe comme ça. Pas certain du tout que ce soit juste, cette pensée. Non. Eh bien, on peut être dans cet état de scepticisme où je remets par définition toujours tout en doute. Et j'arrive pas à construire quelque chose de solide. Alors que le chrétien, il peut dire, comme je le disais, avec une humble assurance, je sais qui j'ai cru, je ne suis pas ballotté forcément ça et là. Donc vous voyez que une juste remise en cause est sans doute saine, mais une pensée qui cultiverait le scepticisme encore, toujours et partout, c'est une forteresse à abattre. Pareil pour l'esprit critique, des gens qui ne voient que les aspects négatifs, alors que le chrétien est lucidement tourné vers le positif. Un état d'esprit aussi d'indifférence. On est centré sur soi, ou on est désillusionné, c'est la bof génération, voilà. Tandis que le chrétien est tourné vers les autres et espère. Aussi, notre état d'esprit peut être marqué par le conformisme. Ah ben, ma copine, elle fait comme ça, donc je vais pas faire différemment. Alors qu'on est appelé à ne pas hésiter à trancher. On est du côté de celui qui a dit, mais je vous dis, ne pas suivre la pensée unique. Et puis certains aussi cultivent un état d'esprit de rêve, de chimère, de bâtir des châteaux en Espagne, de vivre dans l'illusion. Ça aussi, je pense que c'est une forteresse qu'il faut abattre. Si je vis complètement dans l'irréalité, ou je cultive des pensées sur des choses qui, de toute façon, ne n'arriveront jamais, eh bien, je ne suis pas forcément dans la pensée de Dieu. Le chrétien, lui, il est concret dans la perspective d'un idéal dont on sait qu'il sera réalisé un jour dans le ciel. Et quant aux autres, eh bien, je pense qu'il faut qu'on s'encourage à cultiver des pensées humbles et bienveillantes. Qu'il y ait donc en vous cette pensée, dit Paul en Philippiens 2, versets 5 et 6, qui a aussi été dans le Christ Jésus, lui étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet d'être à ravir à Dieu, d'être égal à Dieu. Donc, ayons a priori cette pensée bienveillante sur notre frère, notre sœur. Je le vois faire quelque chose, a priori je me dis, c'est qu'il a été bien. Je ne suis pas naïf non plus derrière, mais j'ai cet a priori positif. Et puis, aussi qu'on soit encouragé, c'est pour cela qu'il y a des rencontres comme celle-ci, à partager nos pensées. Le faire s'aiguise par le faire. Et puis, quant à Dieu, donc on a souvent cette distinction, soit les autres, Dieu, trois dimensions, Quant à Dieu, eh bien, je vous invite à cultiver une douce pensée sur Dieu. J'aime beaucoup cette expression-là. Tout ce qui nous est donné de bon et de tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ni nombre de changement. Donc je dois penser à Dieu, je dois avoir des pensées sur Dieu comme lui se révèle à nous, et non comme nous, nous l'imaginons. Tu ne te feras pas d'image taillée, disait le second commandement. Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi, mais je t'en reprendrai, dit Dieu au psaume 50, et je les mettrai devant tes yeux. Donc nous n'avons pas à cultiver, surtout sur Dieu, des pensées qui ne soient pas directement au crible de l'Écriture, parce que certains ont des pensées sur Dieu qui sont fausses. Et c'est très intéressant, quand on lit la Bible, d'avoir une pensée qui nous surprend. « Oh bah tiens, j'aurais jamais pensé que Dieu puisse dire ça. » Ah ben, tant mieux, parce que ça... Mais ça fait une écaille à notre image taillée, c'est bienvenu. Alors, pour terminer, comment être vainqueur dans nos pensées? Eh bien, nous sommes appelés à entretenir des pensées selon Dieu pour remporter la victoire. Et la première des choses, c'est que nos pensées seront gardées par la prière. Psaume 94 nous dit « Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de mon âme, tes consolations, qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. » Parfois, on est envahi par des pensées. Eh bien, on est appelé à les exposer devant Dieu. Toutes ces pensées qui parfois nous taraudent, nous envahissent complètement, à exposer nos requêtes à Dieu. Et le résultat, ce ne sera pas forcément que Dieu répondra selon nos pensées, nos idées, mais en tout cas, il les gardera. Il gardera vos cœurs et vos pensées, donc le tréfonds et les pensées qui en sortent dans le Christ Jésus. Gloire lui soit rendue. Et puis nos pensées doivent être gardées aussi par la lecture et l'imprégnation de la parole méditée. Bienheureux l'homme qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Nous avons déjà vu que la parole de Dieu était la vérité. Donc ça implique, si on veut avoir de bonnes pensées, de lire la parole de Dieu, de connaître cette parole de Dieu. Je suis frappé de voir que parfois il y a une méconnaissance très forte. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il était un groupe de jeunes et ces jeunes, ils connaissaient mieux la vie de Kim Kardashian que de la vie de Barnabas. C'est quand même un peu dommage. Nos pensées doivent être aussi gardées par des occupations de pensées positives. C'est pas parce que je pense ça que c'est juste. Ce n'est pas parce que je pense ça que c'est juste. Ça, c'est un point très important. Et ce qui doit occuper nos pensées, c'est ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation. Ça, ça doit occuper nos pensées. Mais parfois, ce que je pense n'est pas juste. Et puis, par-dessus tout, en étant occupé du Seigneur. Juste avant le texte que tu nous as lu, Édouard, tout à l'heure, il y a cette contraposée de notre mort avec Christ, il y a notre vie avec Christ. Si vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez ce qui est en haut, le Christ est assis à la droite de Dieu, pensez à ce qui est en haut. Donc on a à penser en haut, non pas à penser en bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire être toujours occupé à méditer Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3 à 14. Ça veut dire juste penser comme le Seigneur Jésus pensait. Il pensait aussi aux autres, il pensait aussi à des choses concrètes, aller acheter du pain, il pensait... Relisons les évangiles sous ce prisme-là, ça peut peut-être nous indiquer à penser comme Christ, en étant occupé de lui, car notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors c'est un vaste programme, j'en suis bien conscient, mais le Seigneur peut nous donner la victoire sur les forteresses. Et je vous propose que nous chantions un chant dans le recueil Reflet, le 79.